RCFM, Bintiminoudi, l'émission politique.
Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Vintiminuti. Très heureux d'être avec vous. Notre invité du jour, c'est Laurent Marcangeli, maire d'Ajaccio, président de la communauté d'agglomération du pays ajaccien. Bonjour Laurent Marcangeli, bienvenue.
Bonjour.
Dans moins de cinq mois, vous allez remettre en jeu votre fauteuil à la Maison Carrée et celui de la présidence de la CAPA, première intercommunalité de Corse avec 10 communes, 89 000 habitants. Pour mémoire, vous avez été élu maire en 2014 sous l'étiquette Les Républicains, parti que vous avez quitté en février 2018. Vous serez candidat en mars prochain avec une nouvelle étiquette que vous avez créée, Ajaccio, le mouvement. On reviendra sur la politique tout à l'heure, mais d'abord, Laurent Marcangeli, première question sur ce week-end. Il y avait encore une fois à Ajaccio des rues et des commerces inondés avec les orages, malgré bon nombre de travaux réalisés via le programme de rénovation urbaine de l'ANRU, des bassins de rétention qui pour certains étaient saturés. Il y a encore du travail visiblement. Qu'est-ce qui est prévu à ce niveau-là ?
Le travail ne manque pas, ça je peux vous le confirmer, et d'autres travaux de bassins de rétention et également de réseaux doivent être réalisés. Je prends un exemple, la rue des Halles. Nous savons, je discutais avec un vieil ajaccien ce matin, que la rue des Halles, depuis toujours, lorsque vous avez de fortes précipitations, est complètement saturée et que cela nécessitera des travaux. Sur l'épisode que nous avons vécu, je tiens quand même à remettre les choses dans leur contexte. Nous avons connu un épisode de pluviométrie inédit. Il y a une tempête qui a frappé
102 mm en moins de 24 heures.
C'est un équivalent très important par rapport aux périodes sans pluie que nous avons eues. Et sur quelques minutes, effectivement, la saturation est vite obtenue et vite atteinte. Ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, 24 heures après, il n'y a pas de dégâts trop importants. Je parle sur l'espace public, hein. Je ne parle pas des espaces privés. Les services publics fonctionnent, les quartiers ne sont pas bloqués. On a connu des périodes beaucoup plus compliquées.
Certes, mais au Cannes, au Saline aussi, il y a des avaloirs qui ont eu du mal à boire l'eau de pluie, de l'eau qui sort des bouches d'égout. Au final, on a l'impression que ces orages à Ajaccio se suivent et se ressemblent un peu.
Ah, je ne serais pas totalement d'accord avec vous. Moi, quand je prends l'exemple de orages de 2008, là, on voit vraiment ce qu'est une vraie crise.
C'est encore autre chose.
C'est autre chose. Là, aujourd'hui, vous avez les espaces qui sont libérés. Vous avez des espaces privés qui, eux, rencontrent des difficultés. Hein. J'ai vu un certain nombre de commerces, voire même d'industrie, hein, la marbrerie de l'avenue Noël-Franquine. Oui. Mais franchement, si on y réfléchit bien, épisode exceptionnel, 24 heures après, la vie suit son cours. Il n'en demeure pas moins qu'il faut que nous soyons particulièrement entreprenants.
Bintiminoudi, l'émission politique.
Sujet suivant, Laurent Marcangeli, on va parler du plan local d'urbanisme d'Ajaccio. La révision est en cours, la commission d'enquête publique a rendu son rapport le 15 octobre, avis favorable, mais assorti de réserves et de recommandations. Vous prévoyez 7500 logements supplémentaires à Ajaccio d'ici 15 ans, la commission dit que c'est trop, elle recommande de d'abord construire à côté des logements existants. Est-ce que vous suivrez cette recommandation ?
Oui. Oui, parce que justement la phase d'enquête publique nous amène aujourd'hui à avoir des modifications à apporter. C'est pour ça que l'enquête publique existe.
Donc vous allez réduire le nombre de logements prévus ?
Non seulement nous allons indiquer que nous révisons la perspective de croissance démographique. Nous étions partis sur 1,3% par an de croissance démographique. Et comme le prévoit l'INSEE, nous serons sur du 0,9% par an. Donc nous nous alignons sur les prévisions de l'INSEE et puis cela induira également une modification en matière de logement. Je le dis très clairement, la période de concertation et la période d'enquête, pour moi, elle compte beaucoup. Il faut que nous tenions compte aujourd'hui de l'environnement dans lequel nous évoluons et il faut naturellement que le document d'urbanisme que nous allons proposer pour les 15 prochaines années, 15 ou 20, eh bien il soit en conformité avec l'idée que nous nous faisons de l'aménagement de la ville. Il faut pas subir. Il faut pas être en régression et en récession. Par contre, il faut avoir une progression qui soit encadrée par les différents documents d'urbanisme, mais également qui permettent aux services publics, aux infrastructures, de faire face à l'apport de nouvelles populations.
D'autant plus que ce sujet est lié au précédent. Plus on construit, plus on perturbe les écoulements naturels des eaux de pluie, plus on peut-être aussi, on augmente les embouteillages.
Je vous rappelle tout de même que, en ce qui me concerne, j'ai été dépositaire héritier de documents d'urbanisme dont j'étais pas à l'origine, le PLU de 2013 ou même encore le POS de 1999 qui avait fixé un certain nombre de grands principes. Nous aurons l'occasion à la fin du mois de novembre de discuter de ce PLU. Je pense qu'il faut affronter cela de manière très sereine, arrêter de dramatiser les choses, essayer de proposer un vrai projet de développement de la ville qui tienne compte de ses évolutions et qui tienne compte également d'un curseur politique sur lequel nous voulons placer l'avenir de la ville d'Ajaccio.
Une question, est-ce que vous tiendrez compte de cette réserve émise sur les espaces stratégiques agricoles dans ce même rapport? On vous demande de vous mettre en compatibilité avec le PADUC. Exemple, sur les collines de Timizol, où il y avait un projet de golf qui était inscrit au PLU. Celui-ci étant abandonné, est-ce que vous allez modifier le classement de ces terrains?
Il y a des documents qui sont encore à l'étude. Et nous aurons des réponses à apporter. Pour ce qui concerne le projet de golf, je pense que cela était une coquille assez regrettable que j'ai fait remarquer à l'époque à ceux qui étaient en charge de concevoir le document. Il n'a jamais été question de faire ce golf. En tout cas, moi, je n'ai jamais validé cela. C'était un projet qui avait été envisagé bien avant que je sois maire.
Cela dit, ce sont des terrains qui attirent. Il y a un projet, je crois, là-bas.
Oui, mais ce sont des terrains qui, comme vous avez pu le constater, dans le PADUC, font l'objet de réserves fortement importantes.
Donc vous suivrez ces réserves-là. Sujet suivant.
RCFM, Bintiminoudi, l'émission politique.
Laurent Marquand, Angélie, vous avez présenté il y a quelques jours à la presse le bilan financier de votre mandature, votre première mandature. Vous et votre majorité le qualifiez de vertueux. L'opposition, bien sûr, utilise d'autres mots pour vous attaquer là-dessus. Vous allez l'entendre. Paul Leonetti, conseiller municipal Corsica Libre, répondait à Thibaut Quiligny il y a quelques jours.
111 millions d'investissements, c'est moins que la mandature précédente. Le budget n'a jamais été équilibré depuis le début de l'exercice, c'est du jamais vu. Il y a toujours eu une épargne nette négative. La dette a augmenté de 40%. Quand on m'avait traité de menteur, j'avais publié une lettre publique qui n'a jamais été démentie. Et malgré les corrections avec les retenues de la CAPA qui a bénéficié de l'apport de nombreux fonctionnaires de la ville d'Ajaccio, la charge de personnel a considérablement augmenté. Voilà, de mon point de vue, donc, le compte n'y est pas du tout. Le bilan est catastrophique.
20 minutes, l'émission politique.
Alors, bilan financier catastrophique selon l'opposition de Corsica Libre. Que répondez-vous, Laurent Marcangeli?
C'est impressionnant, il a tout faux. Tout faux, chiffre à l'appui.
C'est-à-dire?
L'endettement, il n'est pas de 40% supplémentaire, il est de moins de 20%. 111 millions, c'est bien plus que la mandature précédente au niveau des investissements. Les dépenses générales, le budget général des dépenses baisse de 700 000 euros en 6 ans. Bon, monsieur Leonetti oublie aussi une chose. C'est que le dernier compte administratif, celui qui a été voté au printemps dernier, il s'est abstenu, il n'a pas voté contre. Il faut aussi être confronté à ses votes, à ses expressions. Je suis toujours stupéfait de voir qu'en campagne électorale, on est dans l'outrance, on est dans la distorsion des mots et des faits. Il faut quand même être cohérent et un petit peu, je dirais, conforme à ce qu'on dit quand on est au conseil municipal, quand on vient, parce que pareil, parfois on s'abstient et voire même on s'abstient de venir.
Une question sur les frais de fonctionnement de la mairie. Vous dites qu'ils ont baissé, notamment sur les personnels.
Les dépenses de fonctionnement ont baissé.
Les frais de personnel ont baissé. Cela dit, est-ce qu'il n'y a pas eu des mutations, des transferts vers la CAPA où la masse salariale a augmenté?
Nous n'avons jamais nié le fait qu'il y avait une volonté de mutualisation. Ça avait été reproché par la Chambre régionale des comptes à la précédente mandature. J'expliquais qu'on avait créé la CAPA et qu'on n'avait pas mutualisé suffisamment de services. Nous avons commandé des audits lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités. Ça figurait noir sur blanc sur les préconisations. Nous l'avons mis en route et aujourd'hui, nous arrivons à la fin d'une mandature où les dépenses sont inférieures aux recettes, donc il n'y a pas de déficit. Il y a tous les budgets qui ont été votés depuis 2015 qui sont excédentaires. Donc encore une fois, je le dis, bon, monsieur Leonetti est dans son rôle d'opposant, mais il ferait mieux quand même d'être un peu plus proche de la réalité parce que là, il est complètement à côté de la plaque.
RCFM, Bintiminoudi, l'émission politique.
On passe à la deuxième partie de notre émission, deuxième partie plus politique. François Filogne, conseiller en charge de la police municipale et de la propreté urbaine, se présentera contre vous en mars prochain. Du coup, vous l'avez écarté de la majorité. Guy Castellane, avant lui, conseiller municipal et chargé de mission Les Républicains, avait déjà claqué la porte en mai dernier. Isabelle Felicciaggi a démissionné, elle aussi, il y a 2 semaines, sans trop de raison, visiblement. Que se passe-t-il dans votre majorité?
Bon, vous avez une présentation qui est un petit peu différente de ce que la réalité. Monsieur Guy Castellane, il n'a pas claqué la porte, il a pris la porte. J'ai annoncé qu'il s'en allait parce que je ne voulais pas le reconduire. Il y a une différence. Quand on claque la porte, ça veut dire qu'on s'en va de soi-même. Quand on prend la porte, ça veut dire qu'on est amené à s'en aller.
C'était assez critique envers vous.
Ah oui, surtout après, quand il a appris que je ne voulais pas le maintenir.
D'accord.
Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment les choses vont se passer. On est justement dans un débat démocratique et chacun va pouvoir s'exprimer. Et il y a un juge de paix, c'est l'électeur. Je vais vous dire ce que je pense. En politique, il faut être cohérent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, pendant 5 ans, jouer les monsieur loyal sur les réseaux sociaux en étant le plus grand compteur des bienfaits de la politique municipale et se réveiller un matin et brusquement vouloir devenir le chef de l'opposition. On ne peut pas venir voir les Ajacciens, les avoir abreuvés pendant des années de publications en disant « Regardez ce que nous faisons est merveilleux ». Vous prenez par exemple sur les travaux sur les inondations.
C'est François Filogne qui attaque beaucoup là-dessus
oui,
sur les réseaux
mais,
sociaux.
Oui, mais François Filogne, écoutez, vous savez, je ne vais pas rentrer dans un débat mano à mano avec François Filogne parce que d'abord, j'ai beaucoup de respect pour sa personne et je vais même vous dire au bout du compte une forme d'affection. Je l'ai récupéré à l'époque, il avait fait 600 voix aux élections de 2014. Il était un petit peu en perte de vitesse politique. Je lui ai proposé de venir à nos côtés. Je lui ai confié des responsabilités. Je pense lui avoir permis de briller d'une certaine manière pendant 5 ans, puisque tout ce qu'il a réalisé, ou il a réalisé avec mon aval, avec mon soutien, et aujourd'hui se présente face à moi.
Est-ce que vous pensez que c'est un mouvement coordonné, tous ces départs? Apparemment, il y aurait possibilité pour qu'il y en ait d'autres, ou est-ce que ce sont des ambitions personnelles qui s'expriment
de manière isolée? Il peut y avoir des coordonnées, mais aussi, peut-être que de mon côté, il y a un certain nombre de personnes que pour des raisons intrinsèquement liées à la gestion de ces 6 dernières années, je ne souhaite pas les voir reconduites à mes côtés, et peut-être que ces personnes le prennent à leur manière, parfois de manière un peu vexatoire. Et de ce fait, aujourd'hui, le monde de communication dans lequel nous vivons les amène à prendre ce type de posture et de position.
Ça veut dire que vous changez de cap ?
Mais bien sûr, une nouvelle élection est une remise en question. J'ai pu constater, en tant que chef de cette majorité municipale pendant 6 ans, qu'il y avait des choses à revoir. Il y a des comportements qui doivent être revus, il y a des fonctionnements qui doivent être revus. Et surtout, ce que je veux, c'est que nous jouons en équipe. Je veux revenir là-dessus, ça me paraît très important. Il ne peut pas y avoir de solistes dans une majorité municipale. Il ne peut pas y avoir de gens qui fassent bande à part, qui se permettent de faire une communication qui leur est uniquement dédié et lié, et oublier le fait que nous travaillons en équipe et que nous travaillons surtout pour les Ajacciennes et les Ajacciens, parce que je pense qu'il faut pas oublier ça. Moi, aujourd'hui, quand je vois les gens, ils me parlent surtout de leurs problèmes, des difficultés quotidiennes, les tambouilles et la politique, ça passe un peu derrière, ça va venir au mois de janvier, on va commencer à parler des tactiques, des compositions de listes, etc. On verra cela. Moi, je vais tenir un langage de vérité aux Ajacciennes et aux Ajacciens. Je connais la ville, je connais la gestion de la ville, et franchement, je vous le dis très tranquillement, On va avoir ce débat. J'aurai un débat sur vos ondes avec mes contradicteurs. François Filon en fera partie. Je ferai ce que j'ai à faire à ce niveau-là.
Alors justement, on va rester sur cette municipale qui arrive, sur ces listes. Alors là, c'était l'opposition qu'on n'attendait pas, qu'on va dire. Celle qu'on attendait, en revanche, c'était celle des nationalistes. Le parti Todana Zionigorsa fera liste commune à Ajaccio avec Corsica Libre. Jandré Minigogne présentera une liste qu'il veut ouverte, mais soutenue très probablement par FEM. Vous la craignez, cette multiplication des listes nationalistes ou à tendance nationaliste au premier tour?
Je la prends comme elle vient. Je n'ai rien à craindre. Le seul juge de paix, c'est l'électeur. Nous aurons un bilan à faire valoir, un projet à proposer, une équipe également à présenter aux Ajacciennes et aux Ajacciens. Et nous verrons bien de quoi il en retournera le 15 mars, soir du premier tour. Chacun sera devant son score, devant son audience. Et moi, en ce qui me concerne, je prends ça de manière... mais particulièrement sereine. Le débat, c'est quelque chose de serein et c'est quelque chose de productif. J'attends de voir, surtout, ce que les uns et les autres proposent. Je serai,
pas encore
en ce qui me concerne, dans les démarches de proposition et dans une démarche de bilan qui sera critiquable par certains, louable pour d'autres. Moi, en ce qui me concerne, je vous le dis très clairement, avec celles et ceux qui m'accompagnent, et ils sont assez nombreux, je le pense, nous traçons notre route, nous serons au rendez-vous de ce débat et nous serons au rendez-vous de ce bel élan démocratique qu'est une élection municipale. Il ne faut pas gâcher tout ça.
Une dernière question sur cette deuxième partie. Il y aura aussi la gauche avec le Parti communiste et le Parti socialiste qui se devraient s'allier apparemment. Lors du lancement de votre mouvement, vous disiez en face Unchenim, vous maintenez.
C'était de la provocation volontaire. Vous savez, en politique, on peut pas aussi se passer de mon mot. Il s'avère qu'à l'époque, excusez-moi...
Il y a un peu plus de monde maintenant.
Il y a un peu plus d'onde. Mais vous savez, c'est pas du vide dont il faut se plaindre. Parfois, c'est du trop-plein.
Bintiminoudi, l'émission politique.
Dernière partie de 20 minutes avec notre invité Laurent Marcange. Il nous reste 5 minutes d'émission. D'abord, une question sur l'ACAPA, dont vous êtes président. Plus précisément, sur la gestion des déchets. Est-ce que votre collectivité est prête à affronter cette crise que tout le monde annonce au printemps prochain avec la fermeture, la fin de vie des centres d'enfouissement?
Sur le court terme, oui. Sur le court terme, nous avons fait en sorte de permettre de faire face à ce problème en tout simplement en stockant sur Saint-Antoine avec une autorisation préfectorale
mise
sur des
balle.
Terrains qui pourront accueillir des mises en balle. Ça, c'est sur le court terme. Mais sur le long terme, je vous dirais que nous ne sommes pas en capacité aujourd'hui de faire face. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ce n'est pas que notre affaire. Vous avez un plan régional qui est voté par l'Assemblée de Corse, proposé par l'exécutif, et vous avez également, donc, dans le cadre du CIVADEC, les moyens de traiter les déchets qui aujourd'hui font défaut. Alors je voudrais répondre là-dessus, c'est très important. J'ai entendu un certain nombre d'élus proches de la majorité territoriale mettre en cause les EPCI, c'est-à-dire les communautés de communes, les communautés d'agglomération sur le sujet. Ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est le manque de plans au niveau régional. Tout le monde le sait. Il n'y a pas de volonté de trancher dans le problème et de dire ce qu'on va faire. On est sur une situation qui aujourd'hui n'est pas gérée correctement et où on se projette sur du zéro déchet avec du tri à la source qui ne peut pas produire ses effets aujourd'hui à l'instant T.
Cela dit, votre collectivité, comme d'autres intercommunalités, ont des compétences. Est-ce que
on obtient des résultats. Vous oubliez de dire.
Est-ce que vous ne pouvez pas travailler si la CDC ne travaille pas ?
Non, si la CDC ne nous autorise pas à faire notre centre de traitement tel que nous voulons le faire et tel que nous le proposons depuis maintenant 4 ans, on ne peut pas avancer. Alors, on a eu des engagements d'un point de vue verbal de la part du président de l'exécutif il y a de cela quelques mois à Corté. Nous maintenons aujourd'hui notre volonté avec d'autres intercommunalités. Il y en a 4. Il y a la CAPA, il y a le Chelavo Mezzane, il y a l'Ouest Corse et il y a également le Taravo Ornano présidé par Valérie Bodge. On a fait une proposition, 4 territoires. Ça représente presque un tiers de la Corse en tout en nombre d'habitants. Je maintiens cela, je crois qu'il faut qu'on change de braquet et ça ne peut venir que d'une impulsion de l'Assemblée de Corse, de la majorité territoriale, ça ne peut venir que d'une véritable volonté de la part de l'exécutif.
En un mot, ça veut dire qu'il y a pour l'instant un frein à votre projet d'usine de tri et de surtri sur la CAPA ?
Ça avance pas au rythme auquel nous voudrions que ça avance. Moi, j'ai l'impression que l'exécutif est en fait un petit peu pris dans des contradictions. Et à la contradiction suivante, c'est gestion, adaptation à la réalité. Et en même temps, ils sont un peu tenus par d'autres intérêts qui, à mon avis, me semblent être antinomique avec le règlement du problème.
C'est-à-dire, plus précisément ?
Il y a des associations qui mettent la pression et on n'avance pas. Mais qui va venir me dire aujourd'hui que l'enfouissement, c'est une bonne solution, écologiquement parlant ?
Alors, une question sur les associations, d'ailleurs, demandent à votre collectivité et aux autres de passer à la vitesse supérieure sur la collecte des biodéchets. Où en est-on aujourd'hui sur la CAPA ?
Nous avons un bilan à faire valoir en la matière. Nous sommes les meilleurs. Moi, je n'ai pas de limite. On a la plus forte production et on a les plus gros moyens mis en face. Donc, y a une nécessité aujourd'hui, c'est de faire face, mais avec les moyens. C'est-à-dire que si vous demandez d'aller à la guerre avec un pistolet à bouchon, c'est en ce moment ce qu'on est en train de nous demander. Et ça, je vous le dis, on ne pourra pas y arriver, on ne pourra pas s'en sortir si on continue dans cette phase.
Rapidement, sur les projets privés à plus grande échelle, Vijanedu 2, mais Djunkadjo aussi, quelle est votre position ? Pour vous, la puissance publique doit primer ?
La puissance publique doit primer, mais quand la puissance publique est défaillante, c'est bien la puissance privée, ou du moins la personne privée, s'engouffre. Et aujourd'hui, il faut qu'on se pose la bonne question. Pourquoi est-ce que la puissance publique est aussi défaillante sur cette question ? C'est ça la bonne question. Pourquoi ?
Peut-être la réponse que vous avez.
Mais je vous l'ai dit, parce que nous n'avançons pas sur ce dossier.
Donc la CDC,
CDC, depuis 15-20 ans, nous n'avons pas pris les décisions. Je n'incrimine pas seulement que l'actuelle majorité, je l'ai toujours dit sur la question.
Donc l'État pour vous, doit maintenant autoriser le projet d'Alexandre Lenfant.
L'État doit prendre ses responsabilités. Nous sommes en crise. Si demain il devra avoir une crise, si chacun se défausse devant ses responsabilités, et je vous laisse deviner ce qui se passera. Donc je ne suis pas aux responsabilités de l'État. Moi je vous dis aujourd'hui, je n'ai pas la possibilité de faire ce que je veux. Je subis également, en tant que président d'agglomération et maire de ville, ce que ces événements laissent entendre.
Très rapidement, il nous reste moins de 2 minutes, Laurent Marcange, et on arrive à la fin. 2020 municipal, 2021 territorial. Si vous êtes réélu à Ajaccio, vous envisagerez de conduire une liste pour prendre l'Assemblée de Corse ?
Je n'exclus pas d'être candidat. Je n'exclus pas. J'ai dans le passé pas voulu être candidat à cette élection. On verra ce qui se passera. Mais vous savez, je suis véritablement les yeux rivés sur l'élection de mars 2020. Nous avons engagé vraiment de profondes mutations à Ajaccio et sur la communauté d'agglomération depuis 6 ans. Il ne faut pas que cet élan soit stoppé. Il y a un état d'esprit, il y a un travail qui est réalisé. Ça occupe tout mon temps, tout mon esprit. J'étais député, j'ai cessé de l'être. J'ai décidé de véritablement me mettre dans cette responsabilité de maire et de président de la CAPA. J'aurais pu être candidat au territorial en 2015, j'aurais pu l'être en 2017, je ne l'ai pas fait. J'ai tenu mes engagements vis-à-vis des Ajaxiennes et des Ajaxiens. Ce qui m'intéresse, c'est d'être réélu au mois de mars prochain, mes responsabilités.
Laurent Marcangeli, en 15 secondes, un peu de politique fiction, vous qui êtes ami avec le Premier ministre, Édouard Philippe, en un mot, un ministère à terme, ça vous irait ?
Je ne pense pas à ça. Voilà, les gens ne me croiront peut-être pas. Vous savez, je vis l'instant présent.
Merci beaucoup Laurent Marcangeli d'avoir répondu
à
toutes nos questions. 20 minutes, si c'est à réécouter ce soir 18h10 et en podcast sur francebleu.fr/RCFM. Marie Gradiaf.
RCFM, 20 minutes, l'émission politique.